Voici Amusez-vous sur RCF Nice Côte d'Azur, une émission de l'Académie Clémentine présentée par Nicole Sabag. Bonjour Nicole.
Bonjour José.
Et aujourd'hui une émission pleine de joie de vivre.
Oui, pleine de joie de vivre, je vous emmène au Canet. Alors aujourd'hui on ne va pas parler de Bonnard, c'est vrai que quand on dit Canet, on pense souvent à Bonnard. Là aujourd'hui nous allons parler d'Emmanuel Bellini. Alors je dois tout de suite dire aux auditeurs que nous avions annoncé Lucette Bellini, c'est-à-dire la fille du peintre qui est la gardienne du sérail, qui s'occupe beaucoup de la sauvegarde de l'œuvre de son père. Et on l'attend encore, donc on espère qu'elle va arriver, mais si elle ne vient pas, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Bénédicte Lecas. Alors bonjour Bénédicte.
Bonjour Nicole.
Vous allez parler en votre nom et au nom de...
De l'association des amis de la chapelle Bellini dont je suis la secrétaire.
Voilà, parce qu'on parlera de cette chapelle dans la deuxième partie de l'émission.
D'accord.
Donc, à l'espace Bonnard au Canet jusqu'au 10 janvier, il y a une exposition qui porte bien son nom, je dois dire, parce que c'est la joie de vivre, et Emmanuel Bellini, c'est vrai que c'est la joie de vivre, non ?
Oui, tout à fait. C'est un artiste qui était très, très gai, très, très enjoué, qui aimait la vie. Et cette exposition, en fait, présente environ une vingtaine de tableaux. Elle débute par un autoportrait avec, au milieu de celle-ci, la chapelle qui était son bonheur, et qui se termine sur une vue du casino, parce qu'il se disait que le casino, c'était la sortie, c'était la fête, c'était un moment de détente. Et entre ces trois tableaux, vous avez des danses en Provence, des clowns, passionnés qu'il était par le cirque. Vous avez également quelques gitans, parce qu'il était aussi énormément intéressé par l'Espagne et l'Andalousie. Et toutes ces toiles, en fait, sont vraiment le reflet de sa personnalité, de cet homme très enjoué, très méditerranéen, hein, qui avait une passion pour la fête. Il en faisait très très régulièrement à la chapelle, où il recevait tous ses amis artistes, chanteurs, poètes, écrivains.
Oui, parce qu'il a traversé quand même une époque, il a connu très bien Domergue, notamment Domergue, je crois, oui, qu'ils étaient très liés.
Tout à fait, il avait également pour marraine, pour la chapelle, Mireille Mathieu, qui venait avec son producteur. Il a des photos avec de nombreux artistes chanteurs qu'on peut voir notamment dans cette exposition. C'est vraiment une belle exposition qui clôt un cycle de quatre expositions que l'association a mis en place pour fêter le 20e anniversaire de sa disparition.
Voilà, il est mort en 89.
Tout à fait, au mois de décembre. Et en fait, cette année a été consacrée à lui rendre hommage avec une exposition à Monaco qui a débuté au mois de janvier. Le cycle ensuite s'est poursuivi à la chapelle avec une exposition intitulée « Les scènes de la vie ». Une très très belle exposition aussi cet été au musée de la mer, consacrée à l'eau, la mer. Et puis on termine en beauté avec le Canet et la joie de vivre.
Oui, alors sur le carton du vernissage de l'exposition, il y a une très jolie phrase d'Anatole France. Je ne sais pas qui a choisi cette phrase, mais je la trouve très belle. Et je trouve qu'elle va très bien pour ce qu'était Bellini. Anatole France dit « L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle. Sans lui, nous en douterions. » Bon, à la fois c'est un petit peu... pessimiste, parce que ça laisse dire que bon,
finalement, la vie n'est pas
forcément
la vie
si belle que ça, et que c'est l'artiste qui se doit de nous montrer qu'elle est belle, et à même dans les choses tristes ou graves, essayer de nous tirer vers le haut, c'est ça, hein ?
Tout à fait.
Alors, vous avez parlé de Monaco, donc oui. Il est né à Monaco
tout
et
à
il
fait.
Est enterré à Monaco, non ?
Tout à fait. Il est né en 1904 à Monaco. Il y a vécu jusqu'à, on va dire, 13-14 ans. À partir de là, il a commencé à travailler dans le cabinet d'architecte de Charles Delmas à Nice.
Et j'ai lu que ce Charles Delmas était le premier assistant de Charles Garnier.
Oui, tout à
voilà,
fait.
Qui a construit l'Opéra de Paris et aussi l'Opéra de Monaco.
Voilà.
Voilà, donc il était à très belle école.
Voilà, tout à fait. Il a poursuivi, donc il a fait aussi sa carrière en tant qu'architecte, puisqu'il y a quand même encore quelques traces au sein de la ville de Cannes, notamment des maisons et des immeubles qui portent son nom. Et en 1949, il a eu de suite le désir de peindre. Et ça a continué jusqu'en 1989. Et sur, on va dire, les 50 ans de carrière, il y a à peu près une trentaine de thèmes qui ont été abordés, tous très éclectiques, avec évidemment une prédominance pour Cannes à la Belle Époque. Et puis, il a travaillé sur Nantes, Vichy, pour toute cette partie ville, après Monaco, bien sûr, parce que c'était son pays, entre guillemets. Et puis, il a aussi beaucoup travaillé sur les clowns, parce qu'il avait une très grande passion pour le cirque. qu'il rejoignait ainsi le prince Rainier pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que le prince Rainier lui a offert une très belle exposition pour ses 80 ans à Monaco.
Et notre ami le docteur Frère.
Oui,
on peut
tout
pas
à
parler
fait.
De cirque et de Monaco sans parler du docteur Frère. Ouais. C'est bientôt le festival du cirque.
Voilà.
Donc, il est né à Monaco, mais il a vécu à Cannes, non ?
Oui, tout à fait. Il a vécu, si mes souvenirs sont corrects, à partir des années 30 à Cannes. Lucette est d'ailleurs née à Cannes en 1901.
On ne dit pas l'âge des dames.
On ne dit pas l'âge des dames.
Si elle avait été là, elle aurait peut-être dit son âge.
Voilà. Et puis, il y a fait son bureau. Et puis, dans les années 50, il est tombé passionnément amoureux de la chapelle qui porte aujourd'hui son nom. C'est une chapelle baroque. Qu'il a transformé en atelier, en fait. Donc, il avait conservé son cabinet d'architecte à Cannes. Et puis, dans le parc Fiorentina dans lequel est installée la chapelle, il y a fait son atelier d'artiste.
Alors cette chapelle donc continue de vivre.
Oui, tout à fait. Elle a quelques manifestations, en tout cas par an, sûres, qui sont l'exposition de printemps, qui commence généralement au mois d'avril et se termine au mois de mai. Les journées du patrimoine, mi-septembre. Et nous organisons deux manifestations importantes qui sont notre cycle de conférences, qui ont lieu tous les deuxièmes jeudis. Entre janvier, février et mars, sur lequel on aborde un sujet artistique, et puis le Noël à la chapelle, où on invite les gens à venir découvrir, sous le thème de la fête, la chapelle.
Alors on va écouter un petit peu de musique, c'est la tradition dans l'émission. Alors je pense que ce que l'on va écouter lui aurait plu ou lui plaît, s'il nous entend de là où il est. Ce sont des danses provençales, c'est ce que vous m'avez dit, que vous pensez qu'il aimait.
Oui, tout à fait. C'était en tout cas un des sujets qu'il avait abordé à travers sa peinture, parce qu'il était très, très attiré par la Provence, très attiré par les traditions.
Alors on va écouter les tambourinaires, c'est Montanaro qui joue.
Σε ξύλινο χαμόι και τη γριά που εμέτραγε με πόντου στην αρρύμπα. Το βυσσινί του Τισιάνου και του Περμαγανάτου και τα κρεβάτια ξεχάσα τα σαραβαλιασμένα με τα δέρα σεντόνια του στα πολύ γερισμένα για το κορμί σου που έδιωχνε το φόβο του θανάτου.
Direction Le Canet cette semaine dans Amusez-vous avec Nicole Sabag et son invité.
Et Bénédicte Leca qui est toujours secrétaire.
Oui, ça n'a pas changé.
Voilà. Et malheureusement Lucette Bellini qui n'est toujours pas là. Donc nous allons continuer à parler de son père.
Oui, bien sûr.
J'aurais aimé qu'elle soit là. J'avais préparé plein de questions, des souvenirs qu'elle avait de son père. On peut peut-être espérer que ce sera pour une autre émission. Vous l'avez connue ?
Malheureusement, j'ai pas eu ce plaisir. Je suis arrivée un peu plus tard. Je suis arrivée en 2000 sur les Côtes d'Azur, donc j'ai pas le plaisir. Donc je n'ai entendu que sa voix qu'à travers des cassettes. Et j'ai beaucoup écouté Lucette raconter son histoire, puisque nous avons travaillé toutes les deux sur le deuxième tome des 10 dernières années de vie de peintre d'Emmanuel.
Et alors, est-ce que, d'après ce que vous dit sa fille ou d'après sa voix, parce que les voix, des fois, ça dit beaucoup, est-ce qu'il était aussi joyeux, aussi optimiste, aussi gai dans la vie quotidienne, ou c'était au contraire
un... Il était un peu anxieux. Il avait beaucoup d'anxiété en lui. Il y a d'ailleurs une anecdote qui m'a fait beaucoup rire quand Lucette me l'a raconté, Il venait de terminer le premier tome et il partait à Nantes pour récupérer les éditions, en fait, et travailler sur cet ouvrage. Et il leur est arrivé moult péripéties sur la route et en train. Ils étaient en train. D'habitude, ils partaient toujours en voiture, mais là, ils avaient pris le train. Et à bout d'un moment, il s'est exclamé « Il ne manque plus que l'attaque des Indiens et ce sera complet ».
Oui, donc toujours optimiste.
Tout à fait. Voilà. Même s'il avait beaucoup d'anxiété en lui, il restait toujours très gai, très vif, très amusant. Il racontait énormément d'histoires drôles à faire rougir, il paraît, les religieuses, tellement elles étaient coquines. Donc je crois que c'était quelqu'un qui était...
Un bon vivant.
Voilà, tout à fait, un très bon vivant.
Voilà. Alors c'est... Vous parliez de ses sujets de prédilection. Bon, l'Espagne, il y a un endroit que, enfin, je trouve, il rend magnifiquement, c'est Venise.
Oui.
Il avait... Ah, enfin, c'est personnel, mais je trouve que ses aquarelles, ses tableaux de Venise sont absolument extraordinaires. On sent l'humidité entre guillemets de Venise. Il rend ça dans ses toiles, notamment dans les aquarelles. C'est magnifique.
Oui, oui. En fait, il avait deux destinations favorites, qui étaient l'Espagne et l'Italie, et Venise notamment. Venise qu'il a peint sous deux aspects. Donc, il a fait Venise la Rouge en étant inspiré d'un début de poème qui dit « Dans Venise la Rouge, plus rien ne bouge ». Et il a fait la partie la plus classique, moins rouge, on va dire, avec les couleurs traditionnelles qu'il emploie, qui sont l'ocre, le bleu, le vert. Et il a fait des tableaux soit peints, travaillés au couteau, pardon, soit peints au pinceau, et ça donne des sujets très, très... Enfin, le sujet est traité de manière très intense, en fait.
Oui, il y a notamment dans cette exposition, il y a 18 œuvres, je crois, il y a notamment une petite aquarelle de Venise qui est absolument superbe. Elle vaut vraiment le... Alors, il peignait sur le motif
Non, en fait, il partait avec nombre de cahiers de croquis, et surtout pour l'Espagne et pour l'Italie, parce qu'il ne voulait pas trop s'éloigner de sa ville et de sa Côte d'Azur qu'il aimait par-dessus tout. Et il dessinait au crayon, au stylo, au feutre, des motifs, des instantanés, des monuments, parce qu'il était toujours extrêmement attiré par les monuments.
Oui, d'architecte.
Voilà, oui, de par sa carrière d'architecte. Mmh. Et lorsqu'il n'avait pas ses croquis, il se faisait envoyer des cartes postales, des photos anciennes. Et c'est à partir de ce travail-là, par exemple, qu'il a travaillé sur Nantes ou qu'il a travaillé sur Vichy, pour pouvoir créer cette série de tableaux qui datent donc toujours de Nantes ou de Vichy à la Belle Époque, avec des monuments qui ont aujourd'hui disparu. C'est le cas notamment du transbordeur à Nantes qui a disparu, mais qui existe en peinture et qu'il avait en photo ou en carte postale.
Alors au Canet, on peut signaler également qu'il a peint la salle des mariages à l'hôtel de ville.
Il a décoré la salle en offrant quelques tableaux qui sont bien sûr dédiés à la fête du mariage.
Alors je voudrais dire aussi que, puisque nous sommes au Canet, donc il y a cette exposition dont vous avez fort bien parlé, Bénédicte, et je vous en remercie, qui se déroule à l'espace Bonnard et qui donc dure jusqu'au 10 janvier. Tout l'espace Bonnard est dans le Vieux Canet, petit peu en dessous de la place Foch, je crois.
Voilà, l'espace Bonnard se trouve à côté des jardins du Tivoli. Donc c'est ouvert tous les après-midi de 14h à 18h.
Et je voudrais dire aussi, puisque c'est bientôt Noël et que l'exposition dure actuellement, il y a à l'espace Saint-Bernardin qui est lui dans un endroit où vous avez, vous, organisé des expositions.
Oui, tout à fait. J'avais fait deux expositions personnelles pour deux artistes et puis j'avais emmené des Québécois.
Voilà.
Exposition.
Donc à l'espace Saint-Bernardin, et ça jusqu'au 3 janvier, il y a une exposition qui s'appelle Les crèches du monde. Alors il faut dire un petit mot aussi, parce que c'est sûrement, je n'ai pas été la voir encore, mais c'est certainement très joli, puis c'est l'époque, il faut aller voir les crèches. Bon, ben malheureusement, nous n'avons pas vu Lucette Bellini, on la verra peut-être une autre fois. En tout cas, vous l'avez très, je dirais pas avantageusement, mais vous l'avez très bien remplacée. Merci beaucoup, Bénédicte. Et puis à bientôt, et allez néanmoins à l'espace Bonnard voir la peinture de Bellini. Vous passerez un très bon moment et vous en sortirez joyeux. Merci.